Allez, il est 10h25, la pendule de RDC, donc j'accueille Françoise dans les studios. Bonjour Françoise.
Bonjour Jean-Marc.
Comment ça va Françoise ce matin?
Eh bien écoute, ça va aussi bien que lundi matin.
Que lundi matin?
Absolument.
Bon, très heureux de te retrouver.
Moi aussi.
Et on est très heureux surtout de retrouver Monsieur Didier Joby. Bonjour Didier.
Salut, comment vas-tu?
Ça va Didier?
Très bien.
Alors on ne s'était pas vu depuis le mois de décembre, bien sûr, pour cette belle émission Sauvant des vies que nous avons fait dédiée au cyclisme, au vélo. Voilà. Et bien sûr, je te présente mes meilleurs voeux Didier.
De même, à toi et à tous les auditeurs.
Voilà, très bien. Alors, nous sommes ici aujourd'hui donc pour faire une nouvelle émission Sauvant des vies avec Françoise. Et aujourd'hui, nous allons parler donc eh bien, de la prévention routière.
Effectivement, on va parler de la prévention routière. Et aujourd'hui, on accueille Monsieur Philippe Jourde.
Bonjour.
Voilà, bonjour à vous. Bienvenue dans nos studios.
Merci.
Voilà, vous êtes venu nous présenter un programme relativement vaste. Hein, vous parlez un petit peu de vos fonctions. Et des fonctions de la prévention routière, tout ce que vous allez pouvoir faire, parce qu'on va dire ça comme ça, ce que vous envisagez de faire, et c'est ce que vous avez aussi réalisé jusqu'à maintenant.
Absolument.
Donc on vous souhaite la bienvenue.
Merci à vous.
Voilà, bonjour, bienvenue à vous, Monsieur Joby. Ben nous, il n'y a pas de souci, ça fait déjà plusieurs émissions qu'on a le plaisir de partager, toujours avec le même plaisir et la même envie. Voilà. Et la même envie, c'est quoi? C'est sauver des vies.
Sauver des vies.
Absolument.
Avec le même objectif.
Absolument. Donc vous êtes Monsieur Philippe Jourde et vous êtes donc chargé de mission auprès de la prévention routière.
Oui, c'est ça. Je suis chargé de mission auprès de la directrice régionale de l'association prévention routière. Et donc j'ai la chance de pouvoir participer sur l'ensemble de notre territoire Nouvelle-Aquitaine à l'action de l'association prévention routière.
Alors nous, bien sûr, on est en Charente ici. En ce qui nous concerne, elle se situe. Est-ce qu'il y a un bureau local? Très certainement.
Il y a un bureau local qui est situé à Angoulême, sous l'appellation donc Comité départemental de la prévention routière.
Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a un accueil public?
Il y a un accueil public, mais c'est pas forcément l'objectif. On va dire que l'association a un siège local sur lequel on pourrait recevoir, mais l'essentiel de nos opérations sont tournées vers l'extérieur, dans les entreprises, dans les établissements d'enseignement, auprès du grand public, dans différents lieux. Nos actions sont essentiellement donc sur le terrain.
Alors donc vous vous déplacez bien sûr sur différents lieux. Quand vous vous déplacez, vous avez un intervenant, plusieurs intervenants. Vous avez quel support?
Alors on intervient avec des équipes de bénévoles, de volontaires du service civique qui portent donc les missions de l'association. Et elle se déplace donc en équipe parce qu'on n'est jamais seul. On est toujours deux, trois intervenants en fonction des besoins et des interventions.
Oui, et puis ça dépend aussi le nombre de personnes qui participent aussi à ces réunions.
Exactement.
Ben, y a toujours des questions qui fusent un petit peu de part et d'autre. Donc aujourd'hui, donc, on va parler bien sûr de prévention. La prévention routière, alors ça passe aussi bien par les piétons, comme on disait tout à l'heure. Ça passe également par les automobilistes, par les cyclistes, par les transports routiers, par aussi les autocaristes, hein, par les motocyclistes.
D'une manière générale, tous ceux qui, à un moment donné, partagent avec l'ensemble des usagers de la route l'espace public qui est la voie publique.
Y compris ceux qui ont des petites trottinettes électriques.
Hein,
ou leur petit, je ne sais plus comment vous appelez ça, là, où ils montent dessus, ça roule tout seul.
Les overboards, par exemple, ou les monoroues.
Voilà, les monoroues, je n'ai pas essayé, mais bon, ça doit être sympathique.
Très certainement.
Donc voilà, il faut être très très vigilant à tout niveau. Et ça commence bien sûr, tout d'abord, on a tous crié un petit peu sur le dos de l'automobiliste, et l'automobiliste a aussi crié sur le dos du piéton, parce que personne n'est finalement vigilant à 100%, ça n'existe pas.
Au-delà de la vigilance, c'est d'être attentif à l'ensemble des personnes qui partagent avec nous cet espace public qui est la route.
Oui.
Ou la rue.
La route. Mais pour le partager, il faudrait peut-être aussi que ça passe par certaines choses. Hein. Traverser la rue avec je vais prendre un truc qui ne va pas faire plaisir, mais traverser la rue encore avec les écouteurs dans les oreilles, hein, on traverse, on ne regarde ni à gauche ni à droite, on ne fait pas attention, on n'entend pas l'usager de la route qui arrive, ils n'entendent pas. Les gens sont dans leur bulle, mais ça n'existe pas que pour le piéton, ça existe aussi pour les gens qui ont l'oreille fixée sur les écouteurs, hein, ou autre. Ça devient compliqué de circuler quand même.
Il s'agit d'avoir un comportement adapté à l'usage de la route, et avec un comportement adapté, on peut circuler en sécurité et mettre les autres qui circulent avec nous en sécurité. Donc c'est juste une histoire de comportement, de connaissance, d'éducation, de sensibilisation, et c'est ce à quoi s'attache l'association depuis presque hier, puisque l'association a été créée en 1949.
Donc voilà, hein, il y a déjà quelques années. Mais bon, ça évolue, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui circulent. Hein, maintenant, il y a de plus en plus aussi de gens qui se déplacent en vélo, au jour d'aujourd'hui. Donc, et puis les habitudes de vie ont changé aussi.
Les habitudes de vie, les modes de déplacement changent. Je veux dire, aujourd'hui, on peut circuler sur la voie publique en trottinette électrique, vous le soulignez. Alors, c'est quelque chose qui était impossible, ne serait-ce qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, bah, chaque année, on a de nouveaux modes de mobilité qui apparaissent. C'est bien, il n'y a pas de jugement à avoir, mais il faut tenir compte de tous ces modes de mobilité pour qu'on puisse partager de manière intelligente l'espace public.
Oui. Alors après, ça passe aussi par la signalisation.
La signalisation fait partie de l'environnement et nous indique les règles à respecter pour pouvoir circuler sans danger. Mais si on a juste la signalisation, ça ne suffit pas. C'est avoir un comportement adapté à cette signalisation, la respecter, qui permet de partager l'espace public en sécurité.
Alors, je dirais qu'à la limite, il faudrait presque des piqûres de rappel régulièrement. Entre autres, hein, ne serait-ce que par des spots publicitaires.
Alors, ça peut être des spots publicitaires, mais c'est le lot de l'association. L'association est présente dans une logique de sensibilisation et éducation. Alors, comme j'ai l'habitude de plaisanter, je dis on est plus fort que la BD, puisque la BD touche un public de 7 à 77 ans. Nous, on commence avant 7 ans et on poursuit l'accompagnement des publics au-delà de 77 ans, tant qu'on circule et qu'on est mobile.
Ça va devenir compliqué. Si personne... C'est vrai que, bon, on a tendance à dire « Oh oui, mais ça n'arrive qu'aux autres ». Finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. On est tous concernés un jour ou l'autre, malheureusement.
Absolument.
Lorsque vous intervenez, mettons, dans les milieux scolaires, comment ça se passe ?
Eh bien, dans les milieux scolaires, on va intervenir... Alors déjà, dans différents milieux scolaires. On va intervenir dans les écoles élémentaires, notamment avec des animations un peu emblématiques que tout le monde connaît ou a connues. C'est la piste vélo, avec un challenge qui est organisé ici en Charente chaque année. Hein. Alors... 2020 a été un peu le parent pauvre en la matière, au regard de la situation de la sanitaire, mais le challenge est en train d'être relancé aujourd'hui sur le département, dans les écoles. Donc là, il s'agit d'amener les enfants dans une logique d'autonomie à vélo, d'autonomie et donc de sécurité sur le déplacement à vélo. Donc ce sont des animations qui s'inscrivent dans le cadre du savoir rouler à vélo, hein, qui a été introduit par une circulaire interministérielle. Cette circulaire instaure aujourd'hui donc à l'école un savoir rouler, comme il y existe un savoir nager qui amène les enfants à être autonomes sur le plan de la natation, mais donc là sur le plan du vélo à l'entrée en sixième. Donc nos animations s'articulent essentiellement autour de cette logique dans les écoles du vélo, donc qui passe à travers la maîtrise de l'engin vélo et puis la connaissance des règles de sécurité en termes d'équipement et de comportement sur un vélo. Mais dans les écoles, on peut aussi intervenir avec d'autres supports, d'autres outils pédagogiques réalisés par l'association qui nous amènent à parler de l'enfant piéton, l'enfant cycliste, l'enfant passager des automobiles, l'enfant passager des transports en commun. Donc ça, c'est des interventions qu'on a donc de manière assez régulière dans les écoles élémentaires. C'est aussi après des interventions au niveau des collèges. Donc dans les collèges, eh bien, on va parler de sujets un peu différents. On va être sur la préparation à la SSR, l'attestation scolaire de sécurité routière, qui est une attestation qu'on passe donc en classe de 5e pour le premier niveau, en classe de 3e pour le second niveau. Et je rappelle que cette attestation scolaire de sécurité routière, elle est nécessaire pour pouvoir passer un permis de conduire après au-delà du collège. Et donc on va être dans l'aide à la préparation, alors soit à travers des jeux, des supports pédagogiques qui ont été initiés par l'association, soit à travers des simulateurs de conduite pour les sensibiliser à la conduite du deux roues motorisées par exemple.
Mais là ça va toucher plus des ados.
On est au collège, on est dans les classes entre la classe de 6e, 5e et 4e généralement pour nos interventions. Puis après on va intervenir, on va monter en âge, donc on va intervenir dans les lycées aussi, au niveau des classes de seconde, généralement seconde, première, avec, et là on va commencer à aborder, puisque c'est l'âge où on aborde la conduite automobile, avec la conduite accompagnée notamment, hein, pour les plus jeunes. Donc là on va parler de permis de conduire, de conduite, d'assurance, c'est quoi une assurance, c'est quoi un permis de conduire, à quoi ça sert, enfin, pourquoi on passe tous ces éléments. Et puis on va commencer à parler aussi avec les jeunes de produits, alors l'alcool, les produits stupéfiants et notamment le cannabis. Et puis surtout, au-delà de parler de ces produits, parce que nous ne sommes pas médecins ou addictologues, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'incompatibilité de ces produits avec la conduite, à travers leurs effets.
Et comment c'est perçu ?
Ben c'est perçu en échange, les jeunes découvrent, certains sont étonnés, d'autres croient connaître et du coup reviennent sur des a priori. L'objectif n'est pas d'une manière générale dans nos interventions, que ce soit auprès des enfants ou auprès des adultes. Notre objectif n'est pas d'être des moralisateurs et de faire la morale et d'apporter donc des leçons de morale au lycée, mais bien d'être dans une démarche de faire comprendre que les effets de ces produits ou de certains comportements sont pas compatibles avec notre sécurité à tous sur la route.
Vous leur présentez à ce moment-là des petits films ou des diapos là, sur le sujet ou c'est simplement après un échange de dialogue
Alors on a des outils pédagogiques pour arriver à se rendre compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, une dose d'alcool, c'est quoi une dose d'alcool par rapport à leur consommation? Ça représente quoi et ça se traduit comment en termes d'alcoolémie? Et puis c'est aussi, en ce moment c'est un peu difficile d'utiliser certains outils à cause de la situation sanitaire, mais nous disposons par exemple de lunettes de simulation d'état alcoolique ou cannabinique, donc pour les mettre dans une situation où ils vont se rendre compte des effets de ces produits par rapport à l'équilibre, la vision, la perception des distances, et donc faire le parallèle avec derrière les problématiques qu'ils peuvent rencontrer en matière de
conduite. Oui, c'est comme si c'était en situation normale.
Voilà, c'est pas à travers l'expérimentation. Alors on a aussi des témoignages qui ont été enregistrés, qui peuvent de personnes qui sont des personnes accidentées de la route suite à l'utilisation de ces produits, qui peuvent intervenir. Mais l'objectif, encore une fois, il est, un, pas de faire de la morale, deux, pas forcément d'être dans une démarche où on fait peur. Hein, les paradigmes en termes de communication ont changé. Hein, les images choc, on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas très bien. On est plus donc sur la découverte, la perception, la prise en compte, la connaissance des effets pour pouvoir influer sur les changements de comportement. Et donc, on est au lycée, et puis quand on continue après, on ne s'arrête pas au lycée, on va continuer avec les universités, par exemple, on va aller voir les étudiants, on va continuer à parler des problématiques liées à ces produits, liées à la conduite sans assurance. Et puis, on va commencer à évoquer, parce que ce sont après des usagers de la route aussi, avec des voitures, hein, le permis est arrivé, et donc là, on va continuer avec l'ensemble des risques routiers. Ça va être l'usage du téléphone au volant, les problèmes de temps de réaction, de distance d'arrêt, et donc avec là encore des outils pédagogiques développés par l'association, l'objectif de faire prendre conscience de certains éléments afin de faire évoluer les comportements.
Parce que déjà, lorsqu'ils passent le permis, je pense qu'à l'auto-école, lorsqu'ils vont au cours, déjà on commence, je pense, à les sensibiliser, on continue tout au moins à les sensibiliser sur les dangers de la route.
Bien sûr, ça fait partie de l'apprentissage, mais au-delà de l'apprentissage qui là est un temps déterminé et spécifique pour pouvoir obtenir le permis de conduire, eh bien nous nous positionnons dans une logique continue d'éducation et de sensibilisation qui commence dès le plus jeune âge, et on voit bien qu'on est présent aujourd'hui donc dans l'école élémentaire, dans le collège, dans le lycée, à l'université. Et on ne s'arrête pas à l'université, c'est-à-dire qu'on continue à accompagner...
Les seniors, notamment.
Ah, mais même avant les seniors, les adultes, quand ils sont salariés dans les entreprises, nous intervenons aussi au bénéfice des salariés, des personnels dans les entreprises, pour continuer à aborder le risque routier qui est un risque qui peut devenir donc un risque professionnel, hein, l'accident du travail. Il faut savoir que parmi les accidents du travail, la moitié concerne la route, d'une manière générale. Donc c'est pas neutre.
Non, c'est pas neutre.
Et au-delà, il faut intégrer que il y a toutes les personnes qui roulent, qui sont en mission sur la route, mais il y a aussi tous les autres qui vont au bureau le matin et qui repartent le soir, qui peuvent être concernés par un accident du travail en lien avec la route, puisque le trajet effectué par la personne de son domicile au travail le matin et le soir ou entre midi et deux du travail vers la maison, un accident qui surviendrait à ce moment-là est un accident du travail.
Oui, c'est considéré comme un accident du travail, effectivement.
Voilà. Donc, sensibiliser les salariés tout au long de leur vie de salarié au risque routier, c'est aussi pour les entreprises la possibilité, du coup, de, à travers un personnel sensibilisé, de limiter le risque d'accident du travail lié à la route. Et donc, avec tout l'impact que ça peut avoir de bénéfique pour l'entreprise, des personnes qui ne sont pas absentes, qui ne sont pas malades, qu'il n'est pas nécessaire de remplacer, des cotisations d'assurance qui n'augmentent pas. Donc, tout ça continue et tout le monde y trouve son compte. Et puis après, comme vous l'avez justement dit, on ne s'arrête pas aux salariés. Quand il part en retraite, le salarié, il devient ce qu'on appelle un senior. Il devient le senior qui n'est pas plus accidentogène qu'un autre conducteur, hein, même plutôt moins que les autres. mais pour lequel on va intervenir parce que en tant que senior, il va être plus fragile, plus pour le même accident, il va avoir plus de répercussions qu'un jeune de 30 ans. Donc on va continuer aussi à échanger, à faire évoluer les comportements en allant intervenir auprès des seniors avec des outils adaptés. Et notre logique, c'est pas de dire vous êtes des seniors, maintenant il faut arrêter de conduire. Il faut rester à la maison, non. L'objectif, il est chez nous, senior, restez mobile, mais restez mobile en sécurité, en adaptant votre comportement.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est mon avis à moi, après, je pense qu'aujourd'hui, le problème des seniors, finalement, c'est que quand on a passé notre permis de conduire il y a 30, 40 ou 50 ans, on n'avait pas cette multitude de panneaux de signalisation qu'on trouve aujourd'hui. Et qu'il y a certains panneaux, moi la première, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas ce... Je trouve qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur ces nouveaux panneaux.
Alors, d'une manière générale, dans votre vie de tous les jours, on est d'accord que vous comme moi, on n'est pas nés tout à fait hier, et du coup, l'environnement qui est autour de nous est très différent de celui qui était hier.
Absolument.
Par contre, on accepte volontiers de se former quand il y a de nouvelles technologies qui arrivent, par exemple, pour les utiliser.
Oui.
Alors, pourquoi on ne fait pas l'effort non plus
parce
de continuer
fait pas
à se former? C'est juste parce qu'on n'y fait pas attention, mais... Par exemple, donc quand nous intervenons auprès des seniors, on a des ateliers qui permettent de réviser le code, d'approcher les nouveaux panneaux, au-delà d'adapter son comportement pour être en sécurité sur la route. Mais personne n'empêche un senior, quel qu'il soit, de pouvoir demain rentrer dans une auto-école, d'aller voir le moniteur auto-école et dire, bah, écoutez, moi j'aimerais bien faire un point sur ma conduite et je voudrais prendre 2 heures de conduite supervisée avec vous pour corriger éventuellement mes défauts et améliorer mes...
Je pense qu'on s'est surpris.
Mais il n'y a pas de souci, aujourd'hui il y a des gens qui le font. Enfin, les auto-écoles ne ferment pas la porte.
Françoise.
Fallait le savoir. Je crois que
nous avons un auditeur qui nous vient de Saint-Julien, qui est routier, qui voudrait vous poser une question.
Voilà, donc on va prendre l'auditeur.
Voilà,
à vous,
Jean.
À vous la
bonjour
réponse.
Jean. Allô
oui.
Jean.
Bonjour monsieur. Je vous pose la question. Quand un automobiliste veut traverser, il est sur les clous, il est prioritaire. Mais il ne faut pas qu'il apprenne sa prioritaire. Il faut qu'il regarde à gauche, à droite. Et il a des mains. Il faut qu'il fasse signe à l'automobiliste. Parce que des fois, il ne traverse pas, les gars. Il ne faut pas qu'il traverse comme une zombie, là. C'est comme ça qu'il se fera écraser. Et bien sûr, qui c'est qui est en tort, c'est l'automobiliste. Bon, et surtout dans les villes. C'est 50 à l'heure, mais il y a des endroits, c'est 30 à l'heure. Mais c'est partagé. Pour moi, c'est partagé. Vous savez, j'ai fait entre 4 000 et 5 millions de kilomètres. Eh bien, il fallait voir en Allemagne comme ça se passait. C'est autre chose que là. Et quand tu roules, qu'il y a un ralentissement brusque en Allemagne, les warnings marchent. Ils ne marchent pas pour aller au bureau de tabac chercher des cigarettes. Hein. Voilà. Et quand il y a du brouillard, on roule avec les codes et non les veilleuses. Ici, on roule avec rien. Regardez bien, roulez sur la route, vous le verrez, monsieur. Bon, voilà, c'est tout, c'est tout. C'est bon, allez, bon courage. Hein.
Je sais pas.
Alors, c'est pas vraiment une question, mais dans l'absolu, si on veut rebondir sur ce que vient de dire cet auditeur, c'est que effectivement, dans certaines situations, et c'est pas toujours le cas, mais dans certaines situations, le piéton est considéré comme prioritaire. Alors, il faut des fois ne pas faire l'amalgame entre le code, ce que dit le code de la route, et puis ce que dit le code des assurances, qui va indemniser un piéton quoi qu'il arrive, s'il est responsable ou pas responsable de l'accident. Mais ce n'est pas parce qu'un piéton est prioritaire qu'il faut effectivement s'exonérer d'un certain nombre de précautions de sécurité pour pouvoir traverser.
Comme les gendarmes, quand ils veulent vous intercepter, ils vous disent vous faire stopper. Il faut qu'ils fassent le même geste.
Ils ont effectivement manifesté clairement leur intention de traverser. Je crois que c'est ainsi précisé
voilà,
dans le code de la route.
Exact. C'est ce qu'il faut qu'ils fassent.
C'est notamment le cas quand il n'y a pas de passage piéton. À partir du moment où il y a un passage piéton et qu'il y a un piéton qui est positionné devant le passage piéton, c'est aussi à l'automobiliste, forcément, aujourd'hui, de faire attention et de s'arrêter pour laisser le passage. Il n'y a pas besoin de manifester.
Vous avez raison, mais des fois, quand tu arrives, tu arrives sur le jeu au passage, mais il te regarde rien du tout, il est une zombie, il traverse, il regarde pas s'il y a du monde.
Mais effectivement, il faut malgré tout, en tant que piéton, qu'on
parce
puisse
que les,
regarder.
Les piétons sont pas beaucoup, ils sont pas éduqués, ils n'ont pas voyagé. On a l'impression.
Alors il faut bien sûr regarder à gauche, à droite, à
tout
nouveau à gauche avant de traverser. Et puis quand on arrive au milieu de la chaussée, regarder encore à droite. Bon, ce sont des précautions oui. utiles, mais c'est
on
un effort
de. De toute façon.
C'est un effort de chacun. C'est pas que le piéton qui doit faire des efforts, mais le piéton doit en faire, c'est vrai, et l'automobiliste doit en faire aussi de son côté.
Et les cyclistes, monsieur, les cyclistes, quand vous êtes en campagne, les routes sont à 90, en campagne ou 80, vous avez des virages, c'est pas là. Les cyclistes, ils sont tous en tas, c'est pas logique. Et c'est comme ça qu'il y a des accidents souvent. Peut-être la voiture roule trop vite.
Voilà, donc encore un peu des deux.
On n'est pas tout seul sur la route, c'est vrai aussi.
Voilà, donc encore un peu des deux. Il faut effectivement que les cyclistes adaptent leur comportement quand ils circulent, mais il faut aussi que les automobilistes...
Les cyclistes, quand ils sont sur les routes, les côte à côte, et puis vous pouvez y aller, tiens. Bon, moi, je le suis assez, parce que je sais qu'il y a un virage là-bas, mais j'attends derrière que ça passe, parce que je sais que j'aurai pas le temps de passer le virage. Alors, s'il y a une voiture qui arrive.
Eh bien, continuez à rester prudent.
Il y a un moment, moi j'ai entre 4000 et 5 millions de kilomètres, hein, vous savez. Et j'ai jamais renvoyé quelqu'un de côté.
Et bien on va vous souhaiter que ça continue.
Absolument.
Je dis pas le mot parce que j'ai toujours peur de ça. Par contre, moi, on m'a renvoyé de côté le long du camion. Je déchargeais le camion et on m'a renversé. Une voiture.
Eh bien Jean, on va vous remercier d'avoir appelé. Et
voilà.
Puis on va vous souhaiter une bonne journée.
Dans le brouillard, dites-leur bien, dans le brouillard. Ils ne savent pas ce que c'est le brouillard, les gens.
Jean, on va être obligé de vous laisser et on va vous souhaiter une bonne journée.
À la télé, il y avait la prévention, il y avait ci, il y avait là, mais il n'y a plus rien maintenant.
Au revoir, merci de votre intervention. Merci à vous, au revoir. Bonne journée.
C'était Jean de Saint-Julien. On va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien, puis on se retrouve juste après. Continuez à appeler au 05 45 95 09 87 pour poser, bien sûr, des questions sur la sécurité routière, tout simplement, avec cette émission ce matin. Frédéric François, La liberté d'aimer.
Fugace et discret, de femmes qui se cachent pour s'aimer. Partout dans ce monde, en émoi, il y a trop d'amants hors la loi. De mains qui se frôlent sans rien dire, deux hommes tout tremblants de
La liberté d'aimer, monsieur Frédéric François. Vous êtes sur RDC 93.4, 92.5. C'est votre émission Sauvons des vies.
Alors, c'est
regardons
vrai.
La route autrement avec l'émission Sauvant des vies.
Et nous retrouvons donc Françoise et ses invités, bien sûr, et nos invités d'ailleurs pour l'émission Sauvant des vies. Et bien sûr, vous continuez à nous appeler au 05 45 95 09 87 pour poser les questions à nos invités. Et nous avons un auditeur qui s'appelle Henri, on le connaît très bien, il nous vient de Limoges. Bonjour Henri.
Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde.
Bonjour Henri.
Bonjour.
Bonjour
Henri.
Bonjour, mes meilleurs voeux à tous.
Pareillement. Oui.
Je voudrais poser une question. Je vais être un petit peu cru. Mais ma question, mais elle est... L'autre jour, ils ont montré à la télévision, je crois que c'était sur Urgence, les gendarmes qui arrêtaient des personnes sur la route, aussi bien en voiture qu'en scooter. Ce gendarme a arrêté un monsieur qui venait en scooter. Il roulait peut-être vite, je veux bien le croire. Mais lorsqu'il lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait comme métier et d'où il venait, ce monsieur lui a répondu qu'il était pompier qui venait de recevoir un appel, un bibib d'urgence, qu'il fallait qu'il se rende tout de suite à la caserne pour aller sauver une vie. Ce gendarme s'est permis quand même de l'arrêter, de lui demander son permis de conduire, de le faire souffler et trouver le moyen de lui enlever son permis de conduire à une personne qui est là pour sauver des vies et qui allait sauver une vie. Vous croyez que c'est normal, monsieur? Il avait la télévision, je veux bien croire qu'il faut friver un peu, mais si ça avait été quelqu'un de sa famille qui aurait été couché par terre en train d'attendre des secours, vous croyez qu'il aurait verbalisé? Moi, je trouve que ce gendarme, il n'a pas été honnête.
Écoutez, j'ai pas vu le reportage, donc je vais pas pouvoir répondre sur la situation, mais concrètement, s'il lui a retiré son permis, c'était sans doute par rapport à une problématique d'alcool ou de produits stupéfiants, et auquel cas, je suis pas forcément certain qu'il aurait été très efficace pour sauver la vie de la personne qui l'attendait. Mais j'ai pas vu le reportage, donc je ne prononcerai pas sur ce qu'a fait le gendarme, et puis si le gendarme l'a fait, c'est qu'il devait être dans le rôle de ses fonctions et qu'il devait répondre
à ses impératifs. Non, c'est uniquement parce qu'il roulait un petit peu trop vite. Il a dépassé la vitesse réglementaire. Mais vous savez, quand vous êtes pompier, que vous recevez un bib, qu'il faut aller sauver une vie de toute urgence, vous croyez qu'on va respecter la vitesse, la limitation de vitesse?
On doit respecter quand même.
Alors là, si vous voulez,
je veux bien croire que... Bon, il peut en procurer un autre accident, mais...
Je vais vous répondre.
Attendez, Henri, il y a M. Joby qui va vous répondre sur le sujet.
Répondre. J'ai été pompier toute ma vie. Et donc, ce qu'on informe et qu'on dit aux jeunes sapeurs-pompiers, c'est que ce qui est important, c'est d'arriver et pour sauver la vie, mais pas de faire des victimes entre-temps. J'ai vécu dans ma carrière des accidents catastrophiques où malheureusement, que ce soit des pompiers ou des médecins du SAMU, ne sont jamais arrivés sur les lieux et malheureusement sont décédés. Je crois que... Sauver une vie, c'est important, ça ne peut pas être au détriment d'autres vies. Il faut impérativement respecter les règles et même si on arrive un petit peu en retard, eh bien, l'essentiel c'est d'arriver. Il faut arriver et c'est ça qui est important. Alors après, pour gagner du temps, eh bien, il y a la possibilité de bien connaître ces secteurs, bien pouvoir... aller plus rapidement avec se déplacer en roulant de manière sécurisée, mais aussi en roulant et en utilisant des routes qui soient le plus adaptées possible, et pas toujours des circuits les plus courts, je dirais. Et je crois que c'est ça qui est essentiel. Faut pas perdre de vue cet aspect-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand vous dites que les pompiers, quelquefois, on prend des risques. Et c'est vrai. Tous les automobilistes prennent des risques.
Je suis secouriste, moi aussi. Je suis secouriste à la Croix-Blanche.
Tous les automobilistes prennent des risques quelquefois. Et souvent, ce n'est pas toujours considéré. Mais il faut quand même toujours transmettre, nous, les secouristes.
De là à lui enlever le permis de conduire, sachant que ce monsieur... Ça, c'est lui qui devait conduire le camion.
Ben oui.
Imagine que ce soit l'enfant de ce gendarme, quand il a dû rentrer chez lui, qu'on lui a dit ton fils est en train de mourir, il vient d'attraper un accident de la route, qu'est-ce qu'il va dire? Merde. Pardon, hein, il va dire merde.
Non, mais je comprends ce que vous dites.
C'est moi qui lui ai supprimé son permis de conduire, il a perdu du temps et mon fils est en train de mourir.
Oui, quand on est bénévole, comme vous l'êtes, et que je l'ai été pendant longtemps, c'est vrai que on trouve ça quelquefois injuste quand on va essayer de sauver une vie. Mais il faut aussi respecter, parce que malheureusement, eh bien, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça n'arrive pas que aux gens qui... Moi, ça peut arriver aussi aux gens.
Vous savez pourquoi?
Oui.
Je vais vous dire le pourquoi. Parce que j'ai joué dans une équipe de police pendant 3 ans. J'ai vu les troisièmes mi-temps comment ça se passait, monsieur. Quand on se faisait arrêter sur la route et qu'on se faisait arrêter, tout le monde présentait sa carte de police. On leur disait, ah, d'accord, vous êtes de la maison. Allez, les gars, circulez, ne soyez pas contre la route. Voilà. Et quand je leur posais la question gentiment, leur disant, si c'est votre enfant que vous arrêtez, les gars, c'est vous qui avez payé l'amende, parce que votre fils ne va pas pouvoir. Si vous le faites, ils disent, on n'est quand même pas des cons. Voilà les réponses qu'on me donne. Vous croyez que c'est normal? Vous voyez que j'en connais beaucoup de choses. Hein.
Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de normal, on va dire.
Hein. Il y a des...
Vous savez, c'est un fait. C'est un fait, Henri, mais il ne faut peut-être pas non plus... Vous savez, les reportages que l'on voit à la télé, je pense qu'il y a certaines fois, il faut aussi en prendre et en laisser. On nous montre certaines images parce qu'on sait que c'est des images de choc et des choses qui seront importantes, on va fermer les yeux dessus. Donc je pense qu'il faut en prendre et en laisser, malheureusement.
Je sais.
Merci de votre intervention.
Je le vois.
Merci de votre intervention, Henri.
Merci,
on vous souhaite
Henri.
Une bonne journée.
Merci, Henri.
Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Au revoir.
Au revoir,
au revoir Henri. Au revoir. Merci d'avoir appelé. Oui, Françoise, je t'écoute.
Oui, tout à l'heure je voulais rebondir sur le titre de la chanson qui était, je ne me souviens plus d'ailleurs parce qu'on a parlé d'autre chose.
La liberté d'aimer.
La liberté d'aimer, voilà. Alors c'est un fait, on a la liberté d'aimer, mais aussi on a la liberté de sauver des vies et on a la liberté de vivre surtout. Et ça c'est important, et je crois que c'est un peu le thème d'aujourd'hui aussi. Hein. On est là pour ça, pour essayer de dire aux gens, ben, il faut tout faire pour rester en vie, même si ce n'est pas facile. Allez, on continue sur notre programme. Voilà, on laisse la parole à... Je vais laisser la parole à Monsieur Jour, de nouveau, parce qu'il a plein de choses à nous raconter, et on est fascinés par tout ce qu'il nous dit. On est là, hein, devant tout cela, parce que ben, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on ignore, et puis ben, il y aurait plein de choses à faire, comme toujours. Hein, c'est ce que Monsieur Joby nous dit à chaque fois. Il y a plein de choses qui ont été réalisées, mais il y en a encore beaucoup à faire.
Bien sûr.
Et chacun œuvre comme il peut.
Et puis ce qu'on fait aujourd'hui, de toute façon, il faut le refaire demain parce que les enfants, il y en arrive tous les jours dans les classes. Et donc il faut continuer chaque année à aller voir de nouveau les enfants et à les prendre.
Donc
et
c'est l'information.
L'association a été créée depuis 1949. Et depuis 1949, cette activité, elle existe. Elle existe et elle a été reconnue d'utilité publique depuis 1955. Donc vous voyez, c'est pas tout récent. Et donc aujourd'hui, on continue, et depuis toujours, avec des bénévoles. Donc là, si des volontaires,
profitez-en.
On va en profiter. Hein, si des personnes sont intéressées pour pouvoir nous rejoindre et participer à cet effort de sensibilisation et d'éducation, donc auprès des enfants, mais comme on l'a dit, tout au long de la vie, eh bien, c'est avec plaisir qu'on les accueillera. Donc on prend des volontaires. Il ne s'agit pas d'être expert en sécurité routière pour pouvoir devenir volontaire ou bénévole à l'association Prévention Routière. Puisqu'en fait, l'essentiel du message, la technicité en quelque sorte de la sécurité routière est portée par nos outils pédagogiques. Donc un bénévole, quand il est en intervention, c'est surtout quelqu'un qui a envie d'échanger, envie de communiquer avec un groupe, avec des enfants, avec des adultes, avec des seniors, peu importe. Donc c'est quelqu'un qui va être un animateur, on va dire, de nos outils pédagogiques pour pouvoir faire passer le message. Mais un bénévole à l'association Prévention Routière, ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu calé en informatique et qui va nous aider à maintenir et à utiliser nos outils informatiques de manière régulière. Et puis ça peut être encore pour d'autres tâches. Il ne s'agit pas d'être disponible 24 heures sur 24, c'est pas ce qu'on attend aujourd'hui des bénévoles. Et je crois que ceux qui en entendent ça aujourd'hui, ben, ils se trompent sans doute. Hein. Le bénévole d'aujourd'hui, c'est pas le bénévole d'il y a 30 ans. Hein. C'est pas quelqu'un qui consacre sa vie à la structure à laquelle il a décidé de donner un peu de son temps. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Nous, on cherche à avoir des bénévoles qui viennent participer à cet effort. Donc, reconnu d'utilité publique, j'insiste, participer à cet effort tout en conservant une vie qui reste très active. Alors, c'est vrai qu'on a souvent des seniors qui sont bénévoles parce que nos interventions se passent en semaine, sur le temps scolaire, sur le temps de travail. Mais on est prêt à intégrer avec différentes missions, différentes possibilités de missions, toute personne qui voudra bien donner un peu de son temps à l'association. Et je les recontacterai si elles veulent laisser leurs coordonnées à l'association. Je reprendrai leur contact.
Ou alors ils appellent la radio tout simplement et puis on prend votre contact et puis
voilà,
on
transmet.
Voilà, et on transmet les coordonnées. Voilà, au 05 45 95 09 87.
Tout simplement. Je voulais juste poser une question à ce monsieur.
Mais je vous en prie.
Voilà. Vous parlez de prévention routière, donc vous allez dans les écoles. Mais est-ce que vous sensibilisez la gendarmerie, les pompiers, tout ça, qui viennent avec vous pour donner des informations?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, je vais remonter aux années 50, donc ce n'est pas d'aujourd'hui encore, traditionnellement, la piste d'éducation routière, que bon nombre de générations connaît aujourd'hui, la piste d'éducation routière, ça a toujours été une action qui était portée en complémentarité, en partenariat avec la gendarmerie.
Oui.
Et quand on intervient dans les écoles, sur la plupart des départements encore, c'est un bénévole ou un volontaire du service civique qui est associé, pour la plupart du temps, à un gendarme, que ce soit un gendarme militaire d'active ou un gendarme
réserviste,
exactement, qui nous accompagne sur les pistes. Donc, sur la piste d'éducation routière, on est très, très fréquemment en lien avec nos amis de la gendarmerie pour pouvoir porter les messages. Et puis d'une manière plus générale, de toute façon, quand nous intervenons, que ce soit auprès des entreprises, auprès des seniors, auprès des enfants, peu importe le public auprès duquel on intervient, souvent de fois on intervient en partenariat avec d'autres acteurs dont le sujet est de permettre de continuer à sauver des vies sur la route. Alors ça peut être la gendarmerie, ça peut être la police nationale, mais ça peut être aussi d'autres acteurs de la
bien
prévention. Ça peut être aussi le SDIS pour les pompiers. Ça peut être. Voilà. On intervient assez fréquemment dans des actions qui sont multipartenaires. Ça peut être aussi tout simplement une association qui milite pour favoriser le développement du vélo, qui va avoir aussi son mot à dire et qu'on viendra compléter avec nos outils. Donc on est dans des actions partenariales très très fréquemment. Et on est évidemment main dans la main avec tous les acteurs au niveau départemental. La prévention routière, ce n'est pas une question de concurrence.
Bien sûr.
On n'est pas le seul acteur positionné sur ce champ et ce n'est pas une histoire de concurrence. L'objectif est qu'au final, on épargne des vies sur la route.
D'accord. Et vous faites donc des foires expositions également. Je me rappelle qu'il y a des stands avec.
Alors, les foires expositions, on reste peu présent aujourd'hui. On l'a fait par le passé. Je me rappelle que quand j'ai intégré mon bureau à Limoges, j'ai trouvé dans un cadre un diplôme de la foire exposition de Limoges de 1956, où l'association était présente. Alors, aujourd'hui, être présent sur une foire exposition, c'est un coût. Un coût important parce que les organisateurs vendent leur stand, en quelque sorte, vendent leur emplacement. Et on n'a pas forcément un public qui est très, très ouvert. Il vient là pour autre chose que pour une action de sensibilisation routière. Donc je pense qu'on est moins présent aujourd'hui sur ce type d'événement. Par contre, on reste présent ou sur des événements grand public ou sur des événements, j'allais dire, à public fermé, c'est-à-dire dans les écoles, dans les entreprises.
Et dans les entreprises, comment ça se passe? Comment il faut qu'ils passent pour vous contacter? Comment ça se passe?
Alors, d'une manière générale, on a des actions où nous prenons les devants, mais ce n'est pas l'essentiel de nos actions. On est aussi en mesure de répondre à des sollicitations, que ce soit pour les établissements scolaires, que ce soit pour... que ce soit pour des entreprises ou que ce soit encore pour d'autres structures, des clubs de troisième âge, des associations pour leurs adhérents, des collectivités, bien sûr. Alors comment ça se passe? Eh bien, nous ne sommes pas un acteur marchand, donc nous ne vendons pas de prestations de formation aux entreprises. Cette reconnaissance d'utilité publique qui remonte à 1955, eh bien, elle fait qu'effectivement, nous ne sommes pas des acteurs du champ marchand et nous ne vendons pas de prestations de formation. Par contre, toutes nos actions, puisque nous sommes complètement indépendants de l'État, nous ne percevons pas de financement direct de l'État pour cette mission que l'on conduit. nous fonctionnons essentiellement à partir des dons, à travers le soutien de particuliers ou d'entreprises. Et comme on est reconnu d'utilité publique, ça entraîne évidemment
des
réductions d'impôts, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à rencontrer sur le territoire des entreprises qui acceptent de soutenir notre action sur, dans sa globalité, notre action auprès des enfants, notre action auprès des seniors. Et en remerciement à ce soutien que peuvent nous apporter les entreprises, on est en mesure d'intervenir au bénéfice de leurs salariés pour les remercier d'avoir soutenu l'association dans l'ensemble de ses missions d'utilité publique sur le territoire.
Alors justement, eh bien, nous avons une auditrice qui appelait déjà l'autre jour pour la sécurité à vélo. Elle est de Torsac, elle s'appelle Henriette et elle souhaiterait vous féliciter, bien sûr, sur ces actions que vous faites tous les jours. Bonjour Henriette.
Bonjour Jean-Marc.
Comment Bonjour. Ça va Henriette?
Ça va bien sûr,
oui.
Ça va, oui.
Alors merci de votre appel, bien sûr, posez votre question, allez-y.
Bah, écoutez, moi j'ai pas de questions à poser, je voulais féliciter tous, monsieur Joby et monsieur, je me rappelle pas de son nom, mais ses intervenants là. Je trouve que c'est magnifique et on devrait en faire beaucoup plus et beaucoup plus pour sensibiliser les gens, c'est vrai. En tout cas, voilà, moi je trouve ça magnifique de faire des émissions comme ça.
Merci. Voilà. Eh bien, merci à vous.
Merci Henriette.
Eh ben, écoutez, avec plaisir. Moi, franchement, je me régale à entendre tout ça. C'est très intéressant.
Et bien sûr, les auditeurs peuvent continuer à nous appeler au 05 45 95 09 87 pour poser des questions. On a encore du temps. Allez-y, faites-vous plaisir.
Il n'y a pas de souci.
Et on vous remercie, Henriette. Bonne journée.
Oui,
au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Comme dirait Coluche, on compte sur vous.
Hein,
voilà. Voilà, vous n'êtes pas assez nombreux à poser vos questions et je suis sûre que vous en avez au bout des lèvres et que voilà, ça permettrait d'étoffer un petit peu notre émission. Alors,
j'aimerais que vous puissiez développer, quand on est bénévole, très concrètement, on téléphone pour se faire connaître et puis après.
Après.
Il y a des étapes de formation, je suppose, d'information. On ne va pas directement dans les écoles comme ça.
Non, alors effectivement. Alors, d'abord, quand on nous contacte, eh bien, derrière, on va se rencontrer, on va échanger. On va échanger sur pourquoi on vient, quel temps on dispose, et puis on va présenter l'association, son fonctionnement, ses modalités d'action, et puis on va faire le point sur l'intérêt que peut avoir le futur bénévole à nous rejoindre. Quand je dis l'intérêt, qu'est-ce qui l'intéresse le plus? Est-ce que c'est plutôt les enfants? Est-ce que c'est plutôt les seniors? Est-ce que concrètement, intervenir, animer, ça ne l'intéresse pas trop, mais s'il peut donner un coup de main en termes de bricolage ou de maintenance du réseau informatique, et ça serait plutôt ça. Donc on va faire le point sur ses envies, ses attentes, et puis sur la présentation de l'association. Et puis à partir du moment où il est décidé à s'engager et à aller plus loin avec nous, et puis où on va tous se donner la main, eh bien on va dire passer différents stages. Alors stage, entre guillemets, étape, devrait-on dire. La première, ça peut être par exemple de participer à une petite formation d'accueil qu'on dispense chaque mois pour accueillir tous nos bénévoles sur l'ensemble du territoire national. On a une petite visioconférence, puisqu'aujourd'hui on utilise aussi ces outils-là qui ont été fort, fort utiles dans cette période sanitaire compliquée, pour pouvoir faire échanger et présenter l'association de manière un peu institutionnelle. Et formaliser en quelque sorte l'entrée dans l'association en partageant ça avec un bénévole qui vient d'arriver peut-être sur le comité de Corse et puis un autre qui vient d'arriver sur celui du Nord et puis un autre sur celui de Haute-Vienne et puis un autre sur celui de Charente. Donc il y a un petit échange de 2 heures en visioconférence avec un bénévole formateur ou un formateur qui est du Centre National à Paris. Et puis ensuite, il va falloir découvrir les outils pédagogiques. Alors ça se passe de différentes manières. D'abord, on a accès, quand on est bénévole, à un intranet sur lequel sont présents nos différents outils, nos éléments de langage. Donc si il est à l'aise avec l'outil numérique, il pourra, même de chez lui, pouvoir se familiariser avec les outils. Et puis, il va échanger avec des bénévoles qui sont plus anciens et donc qui sont plus aguerris, on va dire, en la matière. Il va échanger aussi avec des volontaires du service civique. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on part en équipe. Alors au début, quand il va partir en intervention, si son choix est d'aller en intervention, eh bien, il va y partir en tant qu'observateur avec une équipe aguerrie. Et donc il va observer comment se déroule l'animation sur site. Et puis petit à petit, d'observateur, il va devenir un observateur actif, participant. Et puis il va commencer à prendre en main une petite partie de l'animation et puis même toute une partie. Donc ça, c'est un peu la rentrée graduée et puis formée par ses pairs, en quelque sorte, hein, au fur et à mesure. Et puis, évidemment, régulièrement, au sein de l'association, on organise, sur le comité des actions de formation, sur un outil, parce que c'est un outil nouveau qui vient d'arriver, ou parce que c'est un outil qui est ancien, mais qu'on a de nouveaux bénévoles et qu'il va falloir les former à l'usage de cet outil. Donc on organise des formations en interne. Alors en interne, soit propre au comité, donc localement, dans nos locaux, soit avec, en partageant avec, alors d'abord à l'échelle de la région peut-être, puisque donc notre association, tout en étant nationale, est organisée au niveau régional, avec une direction régionale. Et donc les 12 comités de la région Nouvelle-Aquitaine ont vocation à constituer une équipe régionale en quelque sorte. Et donc on va pouvoir aussi échanger et former entre, je vais dire, de manière intercomité avec nos bénévoles. Et puis au fur et à mesure, le bénévole va prendre de l'aisance, de l'assurance. Et puis demain, c'est lui qui sera l'accompagnateur, le formateur d'un nouveau bénévole qui rentrera. L'objectif est d'avoir, malgré tout, au-delà de l'intervention que l'on peut attendre et de son, qui est très précieuse, c'est d'avoir aussi une vie en quelque sorte associative au sein de l'association, au sein du comité, entre bénévoles. Entre bénévoles et membres de l'équipe d'une manière générale, parce que concrètement, quand moi je suis basé sur le comité de la Haute-Vienne, donc à Limoges, quand on organise des rencontres avec les bénévoles, je suis au milieu d'eux. Au même titre que n'importe quel bénévole, et l'ambiance est plutôt bonne.
Bah heureusement, il faut ça aussi.
Absolument,
hein, parce que
absolument.
Si on fait du bénévolat et qu'on y va à reculons, ça n'a pas d'intérêt.
Ah non, aucun.
Ça n'a pas d'intérêt pour celui qui y fait, et puis en plus pour ce qu'on a en face de soi. Si on ne prend pas de plaisir à faire quelque chose...
Le message aura du mal à passer.
Voilà, complètement. Hein, c'est...
Il y a de la convivialité, vous organisez des casse-croûtes entre vous?
Alors on essaye effectivement, alors après tout dépend de l'équipe locale, mais évidemment, alors si je vous dis...
Tout de suite, monsieur Joby, casse-croûte.
Didier connaît ça.
Je suis comme Jean-Marc, je suis
en cette période, vous savez que la convivialité, elle est un peu compliquée.
Certes.
Voilà, mais quand on est dans une période, on va dire, normale de fonctionnement, moi quand j'organise une formation pour les bénévoles, avec qui peut peut-être s'étaler sur toute une journée, bien, le principe que j'ai établi en Haute-Vienne, c'est que à midi, tout le monde amène un truc, on met au milieu de la table et on partage.
Oui, voilà.
Hein, alors ça, c'est parce qu'on s'est donné rendez-vous et qu'il y avait un but un peu officiel au départ, cette formation sur la journée. Mais c'est pas parce que ça dure pas la journée qu'on peut pas faire la même chose d'ailleurs. Hein.
Oui.
C'est-à-dire on prend rendez-vous pour l'après-midi, mais on mange ensemble avant.
Oui, mais ça fait partie de la convivialité.
Exactement.
Ça
c'est pas impossible. Et puis après, rien n'empêche, au-delà des actions, nos bénévoles ensemble de dire tiens, ce week-end on n'a pas d'action du tout, mais si ça vous intéresse, on peut aller faire une petite marche et puis se faire un casse-croûte après. Et rien n'est interdit, il suffit juste que ça se mette en place, que les personnes fassent connaissance, et elles vont faire connaissance à travers nos regroupements, à travers nos actions. Et puis bien sûr, si on arrive à ça au bout du bout sur un comité, ça veut dire que le comité il fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, ça veut dire que le bénévole y trouve son compte, et puis que si le bénévole y trouve son compte, l'association aussi. Donc,
de toute façon, vous êtes tous là pour la même cause.
Exactement.
Donc,
socialement, c'est très important. Aujourd'hui, on vit dans un monde quand même assez individualiste, malgré tout ce qu'il y a. C'est important de se retrouver. Ça peut être quelque chose pour les gens qui, aujourd'hui, sont confinés, se retrouvent seuls.
Il n'y a plus de vie sociale. Aujourd'hui, on n'en a pratiquement
bien
plus.
Envisager d'intégrer une structure pour reprendre une vie sociale. Et comme c'était dit, on ne demande pas un engagement incroyable, insurmontable.
Oui, si on est disponible qu'une journée par semaine, et ça sera qu'une journée par semaine. Si c'est que deux journées par mois, ça sera que deux journées par mois. Et puis celui qui, au contraire, est disponible tous les jours, on le reprendra tous les jours. L'idée, c'est de ne pas fixer un cadre trop rigide qui freine et qui devienne après, au-delà du frein, qui devienne une contrainte. Et s'il y a contrainte, il n'y a plus d'engagement derrière.
D'une manière, vous avez une permanence tous les jours de la semaine à Limoges.
Alors à Limoges, mais pas qu'à Limoges. Là, en Angoulême, le comité, on a une permanente qui est présente tous les jours de la semaine. Et donc,
le comité
est ouvert tous les jours.
D'accord.
Alors, elle est chargée de quoi, cette personne qui est là en permanence? Elle donne des renseignements sur...
Alors, elle va faire le lien déjà avec notre direction régionale et puis l'aspect national de l'association. Donc, c'est quelqu'un qui va, sur le plan administratif,
voilà,
de gestion, va nous permettre, nous, de fonctionner. C'est quelqu'un qui va donc être présente aussi, qui va pouvoir donc assurer l'ouverture des locaux, être un lien, le cas échéant, entre quelqu'un qui est passé le matin avec quelque chose de laissé pour quelqu'un qui passe l'après-midi. Donc c'est une présence déjà importante et un soutien important pour tout ce qui est la vie officielle, on va dire, administrative de l'association. Et puis c'est un contact, un premier contact téléphonique, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir donner un certain nombre de renseignements, et puis si elle n'a pas les renseignements, elle va prendre les éléments pour qu'après, ou le chargé de mission, ou le délégué départemental, puisse reprendre contact avec les personnes et finaliser les éléments. Donc on a une présence permanente qui est sur le site. On a en plus donc trois volontaires du service civique qui vont être aussi présents sur le comité et qui permettent aussi d'être en lien quand ils ne sont pas en activité. Voilà, sur le principe. Donc en Charente, comme effectivement en Haute-Vienne, mais sur d'autres comités également, on a des présences permanentes. Et donc une vie possible tout au long de la semaine.
Et donc vous répondez aux questions des gens qui vous posent, admettons, moi j'aurais une question à vous poser.
Posez.
Voilà. Donc c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, on arrive à un feu où c'est qu'il y a un radar de feu, il y a un camion qui tourne sur la droite pour aller rejoindre un entrepôt, il est bloqué, la voiture est engagée entre le camion et le feu, elle est sur juste après le feu et le feu passe au rouge. Donc le flash du radar a bien fait. Et puis voilà. Et puis bien sûr l'amende est arrivée. Et là, pas forcément, elle n'a pas franchi le feu rouge, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe ?
Alors elle ne l'a pas franchi, mais je pense qu'elle l'a franchi quand même à un moment donné. Alors peut-être qu'elle ne l'a pas vu parce que la remorque lui cachait le feu.
Mais non.
Le déclenchement de la cellule part d'un déclenchement sur la barre de feu, sur la ligne de feu, et puis, après. Donc,
il y a deux
après,
flashs.
Voilà.
Oui, mais là, elle était engagée. Elle était engagée au vert et le poids lourd a pilé.
Donc il n'y a pas eu la première... Il n'y a pas eu premier déclenchement si elle était engagée au vert. Si elle avait passé la ligne de feu au feu vert, il n'y a pas eu le premier enclenchement. Donc,
et pourtant, le radar a flashé.
Oui, mais...
Après,
d'accord. Voilà.
Après, alors, autant on va pouvoir répondre, donner des informations.
D'accord,
alors,
oui.
Là, on est sur une situation, j'allais dire, de contestation d'une infraction. Concrètement, ce n'est pas notre sort.
D'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir.
Il y a, vous savez, qui a été créé, alors en plus, c'est localisé sur Limoges, hein, un centre qui traite notamment tout ce qui est autour du stationnement, de la contestation du stationnement. On a un centre à Limoges qui a été créé pour gérer toutes ces démarches. Mais d'une manière générale, quand vous recevez une contravention, au dos de la contravention, vous avez tout le détail possible pour mettre en œuvre une éventuelle contestation et puis la faire aboutir le cas échéant. Mais tout est bien précisé au dos. Alors nous, on est des usagers comme les autres, hein, de la route, et comme les autres, on est soumis au respect du code de la route. Pour autant, on n'est pas expert du code de la route. Donc quand il y a des questions très précises, on peut donner un sentiment, mais derrière, c'est bien les services juridiques et administratifs concernés qui devront être mobilisés.
D'accord. Je vous remercie.
Mais je vous en prie.
On a beaucoup parlé, échangé pendant la musique, hein, pendant les chansons sur les aînés et sur l'action que vous meniez à travers les aînés, et notamment avec des partenariats ou des structures comme la MSA, etc., pour lesquelles vous pouvez apporter votre concours.
Bien sûr. Donc les aînés, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est pour nous une cible importante, non pas parce qu'ils sont plus accidentogènes que le reste de la population, hein, les chiffres démontreraient plutôt le contraire, mais parce que ce sont des personnes qui sont plus vulnérables dans le cas d'accidents, qui vont subir plus de... parce que l'état physique est celui qui est, quand on est senior, on est moins résistant qu'un jeune de 30 ans.
Je pense qu'ils arrivent dans un moment de panique, à un certain moment.
Non, mais au-delà, c'est pas l'accident qui est souvent en compte.
Non, pas l'accident, mais c'est
hein.
les conséquences, peut-être, le fait d'avoir subi quelque chose. Et je pense qu'il... quand on est jeune, on a plus
de... Surtout quand on a 30 ans, on a les os qui sont plus solides que quand on en a 70, qu'on va mieux récupérer, que... Voilà. Enfin, bon, d'une manière générale, on va dire que l'usager de la route dit senior, et quand je dis senior, c'est parce que dans la terminologie de la statistique de l'accidentologie, on utilise ce vocable de senior pour identifier, un public à partir de... Je ne le dis pas.
Allez-y. Au jour d'aujourd'hui, mais, quand on voit l'espérance de vie, quand on voit les gens, comment ils sont,
mais bien sûr.
Comment ils se comportent, comment on les voit physiquement, moi, je dis personnellement, je dis qu'aujourd'hui, on commence à être, entre guillemets, vieux à partir de, après 80 ans.
Non, mais alors, avant, ce qu'il faut entendre,
on n'est quand même pas des seniors, donc, monsieur Joby.
Et ce qu'il faut entendre.
On s'en approche.
Oui, mais est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, moi, ça me choque quand on me dit, pourquoi tu ne vas pas au club du troisième âge. Moi, c'est quelque chose qui me choque. Alors, qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? Parce que je n'ai pas l'état.
Vous avez fait un raccourci très rapide, en fait, entre senior et vieux. Et vieux avec une connotation péjorative dans votre bouche. Et aujourd'hui...
Oui, mais c'est pas, je ne veux pas être méchante vis-à-vis des...
Non, mais aujourd'hui, quand moi, je parle du public senior et d'accompagner les seniors dans leur mobilité, il ne s'agit pas d'y mettre derrière une connotation forcément de vieux au sens péjoratif du terme. Senior, vous savez, en fonction de l'activité, en fonction de ce qu'on va mettre derrière, on peut être senior très très jeune. Oui. Moi, je pratique le badminton, d'accord. Au badminton, à partir du moment où on a 35 ans, on est vétéran.
Oui, 35 ans. Dans le milieu sportif.
Oui, mais dans le milieu sportif, 35 ans. Je pratique aussi le sport boule lyonnaise. On est vétéran à partir de 55 ans.
55 ans, c'est pas vieux. Comme à la pétanque.
Voilà.
Oui, mais c'est pas vieux.
Oui, mais au badminton, c'est 35 ans. Ben, d'accord. Voilà.
Prenez donc, le foot, c'est un peu pareil. Hein.
Le foot, c'est 45. Donc, on va avoir des notions de senior, de vétéran qui vont être très, très différentes. Moi, je dis senior parce que ça correspond à une catégorie d'âge.
Là, vous allez nous le dire.
Non, il y a plus.
Les retraités, c'est bien, la retraite, c'est bien qu'il y ait.
On a des jeunes retraités et on en a des moins jeunes. Mais. Vous savez, quand on dit à un moment donné, il y a des problèmes de temps de réaction, par exemple, pour un senior, le temps de réaction augmente. Alors, c'est quoi le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où un de nos sens a pris une information, l'a transmise au cerveau, que le cerveau en a fait l'analyse, et que de cette analyse, il a envoyé des ordres pour pouvoir agir ou réagir par rapport à cette information. Alors, c'est le cerveau qui travaille, en fait, hein, pendant le temps de réaction. Ce temps de réaction, en moyenne, il est d'une seconde, d'une manière générale. Et on nous dit, avec les seniors, comme c'est le cerveau, concrètement, le temps s'allonge pour pouvoir travailler. Oui, le temps s'allonge.
Oui, non.
Parce que des neurones disparaissent. Oui, mais les neurones, ils commencent à disparaître à partir du moment où on a 18 ans. Donc, dès le moment où on a passé les 18 ans, on peut dire qu'on a un certain nombre de neurones qui disparaissent et donc que notre temps de réaction va s'allonger. Mais le cerveau est un muscle. Et donc, à partir du moment où on l'entretient, et souvent dans les ateliers seniors, je dis aux personnes que j'ai en face de moi, c'est un muscle. Donc, plus vous l'entretenez, plus vous l'entraînez.
Absolument.
À faire des mots croisés, des mots fléchés, des sudokus, il continue à avoir l'habitude de travailler. Et donc, le temps de réaction, il n'y a pas de raison qu'il augmente de manière significative. Donc, senior, c'est pour nous, en lien donc avec les, comme je vous le disais, avec les statistiques de l'accidentologie, mais ça ne veut pas dire vieux, ça ne veut pas dire grabataire, ça ne veut pas dire fini. D'abord, quand on s'adresse à des seniors, pour nous, ils sont encore mobiles.
Oui.
On ne va pas faire d'intervention dans les EHPAD, par exemple, parce que malheureusement...
Ça ne servirait
pas
grand-chose. Hein.
Voilà. Donc derrière, on est sur des personnes qui sont mobiles, et pour certaines qui sont extrêmement mobiles. On vient de recruter un nouveau bénévole en Haute-Vienne. Il a passé, en 2019, les 4 premiers mois de l'année, à faire un tour du monde. C'est difficile d'être plus mobile. Et pourtant, c'est un retraité, et qui a plus de 70 ans. Donc... Ce n'est pas une question d'âge.
Non,
et donc, quand on dit, nous, senior, c'est plus, pour nous, une manière d'adapter nos outils pédagogiques et le sujet qu'on va traiter à la population qu'on a en face de nous par rapport au public qu'on va rencontrer, par exemple, dans une école élémentaire. Et là, je ferai la caricature jusqu'au bout en prenant les deux extrêmes. Mais derrière, senior, c'est quoi? C'est rester mobile, et c'est rester mobile en adaptant un certain nombre de comportements, en adaptant sa manière de conduire, en adaptant ses équipements, le cas échéant. Mais pour autant... Il s'agit de faire quoi? Donc vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'était à l'antenne ou hors antenne, il y a longtemps qu'on a passé le permis, qu'on a passé le code, oui, et il y a des panneaux qu'on ne connaît pas. Et bien dans nos interventions avec les seniors, on va avoir une approche de type révision du code, connaissance des nouveaux panneaux, des nouvelles infrastructures. Comment franchir un rond-point giratoire?
Et tous les combien vous êtes réactualisés pour les panneaux?
Alors vous savez, quand on parle aujourd'hui de nouveaux panneaux, les nouveaux panneaux qu'on rencontre, alors je vais vous en citer 3-4 qu'on rencontre de plus en plus dans nos villes aujourd'hui, c'est la zone de rencontre, le tourne à droite cycliste, le double sens cycliste. Ces panneaux-là qu'on dit nouveaux panneaux, et quand je les fais découvrir sur un atelier senior, ah oui, c'est tout nouveau, on vient de les voir. Ouais, c'est des panneaux qui ont 10 ans déjà.
Mais ils sont renommés autrement.
Non, ils ne sont pas renommés. Non, ils ont toujours été nommés ainsi. D'accord. Mais par contre, peut-être... on commence à les voir réellement sur la route aujourd'hui depuis, allez, 4-5 ans au maximum. Mais ce sont, voilà, donc les nouveaux panneaux, ben on se tient au courant, effectivement, on a une veille forcément au niveau du code de la route. Mais, donc c'est quoi ? Donc c'est réviser son code, c'est apprendre les nouvelles infrastructures. Ben oui, moi quand j'ai passé le permis, et je ne suis pas dans la catégorie encore des seniors, si on regarde, même si j'en suis pas très loin.
Mais non.
Mais quand j'ai passé le permis, ben le rond-point giratoire, il n'existait pas.
Bien sûr que non.
Voilà. Et donc a fortiori, nos amis seniors, quand ils ont passé leur permis, le giratoire, il n'existait pas. Et aujourd'hui, bon nombre d'entre eux cherchent des itinéraires de substitution pour les éviter parce que le rond-point giratoire leur fait peur.
Oui, mais on leur a jamais expliqué.
Une partie de notre travail, en quelque sorte, c'est de leur présenter le rond-point giratoire, de leur expliquer comment le franchir en sécurité pour éviter justement de chercher des itinéraires de substitution, parce que les itinéraires de substitution, ils passent par des croisements classiques. Et ces croisements classiques sont particulièrement accidentogènes, et les accidents qui surviennent sur ces croisements classiques sont particulièrement lourds, et avec des conséquences dramatiques. Alors que sur un rond-point giratoire, eh bien, vous rechercherez les accidents dramatiques. Mmh. Alors il y en a eu, hein, mais concrètement, ils sont, il n'y a pas besoin de demain pour les compter, peut-être à l'échelon national, et puis c'est très très rare. Voilà.
Ben oui, mais c'est des choses nouvelles et c'est vrai que à ce niveau-là, je pense que les médias n'en ont pas suffisamment parlé. Il aurait peut-être fallu expliquer davantage, ne serait-ce qu'au sein des mairies aussi. Hein,
voilà, mais les mairies nous sollicitent, enfin les collectivités nous sollicitent pour intervenir auprès des seniors, par exemple.
Ils ne peuvent pas tout faire non plus. Hein,
On est dans une démarche où, si vous voulez, quand on dit senior, c'est comment adapter sa conduite pour rester mobile le plus longtemps possible en sécurité. Donc c'est apprendre à franchir un giratoire, c'est réviser un peu son code de la route, c'est aussi connaître les accidents, quelques accidents qui sont un peu typiques de la personne senior, parce que un peu moins mobile, parce que un peu plus gêné de gérer beaucoup d'informations à la fois, celle du GPS, du panneau de circulation, du piéton qui traverse. Donc comment on fait pour s'adapter ? Comment on adapte sa conduite aujourd'hui ? Ben, déjà en connaissant les principaux accidents qui sont des accidents un peu typiques du senior, non pas, et je répète, ils ne sont pas plus accidentogènes que les autres, hein, mais connaître ces accidents, comment réagir pour éviter ces accidents, comment on peut équiper aussi son véhicule avec des astuces toutes simples pour pouvoir être un peu plus en sécurité. Ben, quand on est senior, on a un peu plus de mal à tourner la tête pour vérifier l'angle mort.
Comme là, ils viennent d'enlever, là, vous savez, on avait le droit de mettre le département qu'on voulait, maintenant c'est interdit.
Oui, mais ça, si vous voulez, c'est pas un problème de sécurité concrètement sur la route.
Oui, mais
par contre, le fait d'avoir un peu de mal à tourner la tête, à tourner le cou pour pouvoir vérifier les angles morts, aujourd'hui, la conduite accompagnée est en fort développement depuis 4-5 ans. Eh bien, le développement de la conduite accompagnée a amené à faire des petits rétroviseurs qui viennent se rajouter au rétroviseur extérieur existant, ou voire au rétroviseur intérieur. Eh bien, ça peut permettre un angle supplémentaire, donc un petit équipement qui ne coûte pas bien cher, qu'on peut poser chacun, et qui peut rassurer, j'ai pas besoin de tourner complètement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus tourner la tête, mais on peut avoir des aides comme ça qui vont nous amener à être plus prudents au volant. Donc, tous ces éléments, eh bien, ce sont des éléments qu'on partage avec les groupes seniors que l'on peut.
Moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je vois, moi qui suis petite, si vous voulez, dans le véhicule que nous avons, eh bien, je suis gênée par le rétroviseur. Il y a une partie, je suis obligée de me surélever pour voir, parce que sinon je vois pas, ça fait comme un angle mort. Donc à la limite, ce petit rétroviseur m'aiderait bien.
Pourquoi pas ? Et puis derrière,
c'est une suggestion.
Quand vous parlez de la taille, c'est aussi un sujet souvent qu'on aborde avec les personnes dites seniors, c'est que beaucoup sont aussi de taille petite, hein, plus petite que nos générations qui ont suivi. Et souvent, qu'est-ce qu'on a ? On a la ceinture qui gêne. Hein.
Oui, complètement.
Ah oui, qui gêne. Et donc parce que la ceinture gêne, on met une épingle de sécurité, une épingle à linge pour couper la ceinture, qu'elle ne vienne pas nous frotter.
Non, je mets pas ça.
Mais sauf que quand on fait ça, on ne le sait pas forcément, mais ça annihile complètement l'usage de la ceinture. C'est comme si on roulait sans ceinture de sécurité.
Oui, alors, parce qu'elle se détend,
elle ne se bloquera pas. Elle sera toujours détendue. Donc, pour éviter ça, alors sachant qu'aujourd'hui, dans la majorité des voitures, on a un réglage possible.
Oui. Mais malgré ça...
Ça peut rester insuffisant. Oui. Je le sais bien. Et bien, quand c'est insuffisant, un coussin sur le siège va permettre de positionner correctement la ceinture et d'éviter.
J'aime pas trop, moi.
Mais derrière, ça veut dire que si vous circulez soit sans ceinture, soit avec la ceinture.
Ah non, jamais quand même, mais j'essaye de la descendre, de la descendre au maximum.
Et oui, mais en la descendant au maximum, soit elle est bien positionnée sur votre clavicule, et là on ne parlera pas de danger, mais si elle n'est pas bien positionnée sur votre clavicule, dans tous les autres cas, vous augmentez le sur-risque, on va dire, d'accident, et vous vous mettez en danger toute seule, en fait, juste en positionnant votre ceinture. Donc il vaut mieux mettre un coussin. Alors trouvez le bon coussin, celui qui va bien, l'épaisseur qui va bien, la fermeté qui va bien pour vous sentir à l'aise sur le siège.
Alors moi je vais vous dire, d'abord, c'est un fait, le coussin, mais d'abord trouvez le bon véhicule qui vous convient.
Ah bah ça aussi.
Parce que je peux vous dire que moi, comme je vous le répète, qui suis petite, je peux vous dire que quand on achète et qu'on marie, on achète un véhicule, je dis attends, c'est moi qui monte au siège de conducteur.
En premier, c'est moi qui choisis.
Et j'essaie le véhicule. Parce que si je dois monter le siège au maximum et pas toucher les pédales, parce que ça m'est arrivé, on n'est pas à l'aise.
Bien sûr.
Donc, ou alors vous allez chez la concessionnaire, il vous dit, si, vous montez, tiens, ma cache Walou, on ne monte pas, et moi, j'ai le truc au haut du nez. Donc, je dis à mon mari, j'essaie le véhicule, si c'est à ma taille, il n'y a pas de souci. Parce qu'après, pour une personne plus grande, c'est plus facile à adapter.
Mais bien sûr, et de toute façon, donc, pareil, dans ces échanges avec les seniors, ce sont des choses dont on va parler, c'est le choix du véhicule. Eh bien, il y a des véhicules qui vont être plus facilement à conduire à partir du moment où on est senior. Le fait d'avoir du mal à tourner la tête, de préférer des pare-brises vastes, sans angle mort, le fait d'avoir... Il y a plein de petites astuces, de petits conseils qui sont juste, qui relèvent de l'échange et qu'on va pouvoir porter dans ces échanges avec les seniors.
Quand on a un véhicule pour deux, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on règle le rétroviseur, parce que souvent il est adapté à une personne et pas forcément à l'autre, déjà. Hein? Donc après ça s'adapte, mais ça, l'histoire du volant, je l'ai vécu. J'ai dit non, moi je laisse ta voiture, c'est très bien, elle te plaît, tu la gardes, mais moi j'en veux pas, j'étais pas à l'aise.
Voilà, mais continuez à faire ça, et surtout positionnez votre ceinture de sécurité correctement, qu'elle soit bien à plat sur votre clavicule.
Je la mets, mais c'est vrai que quand on fait de la route, quelquefois c'est quand même relativement gênant que ça coûte tout le temps le coup.
Voilà.
Françoise,
oui,
on perd une petite pause musicale.
Ah, je veux bien, oui.
On va demander aux auditeurs s'ils veulent appeler, qu'ils appellent 050-595-0987 et on reprend juste après.
Surtout
pour l'émission.
Je suis sûre qu'ils avaient plein de questions. Hein.
Allez, on repart en musique. Claude Barzotti, Je ne t'écrirai plus.
Sous un pli bleu, je t'envoyais la tendresse de Bernard Dimé. Tu trouvais que c'était joli, tu n'y as jamais rien compris. Je t'envoyais des chansons de Brel, celles qui frappent où le cœur se fêle. Je pensais qu'elles pourraient peut-être faire pousser un arbre au désert. Je t'envoyais des fleurs séchées, de la lavande et des pensées. Il n'y a pas d'amour heureux, disait Aragon amoureux. J'écrivais tout et sans pudeur. Je me déshabillais le cœur. Je t'écris une dernière fois, c'est ma dernière chanson pour toi. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je te recopiais des poèmes piqués à ce vieux fou du goût. Lui qui savait dire je t'aime sans jamais avoir l'air idiot. Je me servais d'Apollinaire et de Rimbaud et de Verlaine. Ce rêve étrange et pénétrant, moi aussi je l'ai fait souvent. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, calme est revenu, la tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus.
Le son de Claude Barzotti, je ne t'écrirai plus, vous êtes sur RDC 93.4, 92.5 et on continue cette émission Sauvons des vies.
Regardons la route autrement avec l'émission Sauvons des vies.
Et bien sûr, la dernière ligne droite de cette émission Sauvons des vies, Françoise, je te laisse la parole.
Oui, une émission très enrichissante ce matin. Merci à vous, messieurs, d'être venus dans cette émission Sauvons des vies, parce qu'on apprend plein de choses. Nos interlocuteurs sont particulièrement sympathiques, en plus. Merci. On passe un super moment. Merci. Et puis, voilà. Hein, donc, on est aujourd'hui avec la prévention routière. Donc, vous
ne pas confondre avec nos amis de la sécurité routière, qui sont un service de l'État et qui mettent en œuvre donc, la politique de l'État en matière de sécurité routière.
Voilà, on apprend plein de choses. Le tout, c'est de poser la bonne question.
On va inviter très prochainement, si ce n'est pas le mois prochain, ce sera le mois d'après.
Et avec qui, évidemment, comme avec les gendarmes, on est régulièrement la main dans la main sur des opérations conjointes.
D'ailleurs, il y aura peut-être des gendarmes qui viendront aussi dans cette émission.
Oui,
voilà, c'est prévu, des pompiers également.
Exactement.
Des agents de la DIR aussi.
Oui.
Voilà.
C'est vrai.
On va en avoir des choses à dire.
On va en avoir.
Donc, on continue notre émission avec, vous m'avez dit, prudence.
Alors, au-delà du soutien qu'on peut apporter, de notre présence qu'on peut avoir auprès du public, d'une manière générale, hein, les enfants, les collégiens, les lycéens, les étudiants, les salariés, les seniors, eh bien, on apporte aussi notre appui aux collectivités, et notamment depuis bientôt 3 ans, avec un label, le label Ville ou Village Prudent, que porte l'association Prévention Routière. Alors ce label, quel est-il ? Il fonctionne un peu comme d'autres labels que vous connaissez par ailleurs, hein, les villes fleuries par exemple, et donc se traduit par un panneau d'entrée d'agglomération qui ne porte pas des fleurs comme son homologue célèbre, mais des cœurs, donc pour soutenir et mettre en avant des collectivités qui font des choses en matière de prévention routière et qui se traduisent en termes de sécurité routière. Alors ce sont des collectivités qui font des choses en matière d'équipement, de signalisation, la sécurisation des centres-bourgs avec des zones 30, avec des passages piétons protégés, avec des systèmes de feu. On a
des chaussées doux, des giratoires.
Exactement, tous les équipements qui vont permettre de sécuriser la circulation, quels que soient les modes de circulation sur la commune. Mais c'est aussi des collectivités qui font des efforts en matière d'information, de sensibilisation. Alors, soit directement parce qu'elles ont pour certaines des polices municipales qui sont avec des agents qui peuvent être formés à ces éléments de sensibilisation. La prévention routière, par exemple, forme des policiers municipaux très régulièrement pour être des intervenants en éducation routière auprès des enfants, que ce soit sur le temps scolaire ou hors du temps scolaire. Donc, soit directement par l'intermédiaire des personnels, faire de la sensibilisation, soit en faisant appel à différentes structures, comme l'association Prévention Routière, mais aussi d'autres organismes, pour mettre sur la commune en œuvre des actions de sensibilisation, alors au profit des aînés, au profit des enfants, dans les écoles, peu importe. Donc l'idée, c'est, à travers ce label, mettre en avant des communes qui font l'effort, qui ont fait l'effort de mettre en avant des équipements, des aménagements, des initiatives pour favoriser la circulation en sécurité sur leur territoire.
On en voit de plus en plus d'ailleurs de ces panneaux.
Eh bien, ça commence à se développer. C'est encore pas très fréquent. La Charente est fait un peu parent pauvre, on va dire, dans la Nouvelle-Aquitaine, puisque comme un ou deux autres départements, on n'a pas vraiment de communes labellisées en Charente. Mais j'espère que ça va venir.
Alors, sachant qu'en plus, c'est d'en parler. Puis de...
voilà. Le label est encore récent. On rentre dans une phase en plus très opérationnelle et intéressante, me semble-t-il. C'est que les communes labellisées vont rentrer aujourd'hui dans ce qu'on va appeler une communauté des villes labellisées, des villes et villages labellisés, et donc vont pouvoir échanger sur leurs pratiques, des échanges qu'on va animer au niveau régional, pour pouvoir renforcer cette visibilité et puis renforcer aussi la sécurité dans les différentes communes. Donc si des maires m'entendent ce matin et qu'ils sont intéressés par le label, qu'ils n'hésitent pas à prendre la tâche de la radio et je prendrai directement en contact avec eux, puisque dans mes différentes activités, je porte aussi la casquette de référent de ce label à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, donc je ferai un plaisir de les contacter.
C'est une fois par an
Tout à fait, alors on va rentrer là dans la campagne va débuter là au mois de février, la nouvelle campagne donc 2021, avec il y a un site dédié qui existe, villeprudente.fr, qui permet d'avoir déjà un premier niveau d'information sur ce label et qui permet de s'inscrire pour recevoir un newsletter et autres informations. À partir de là, il y a un dossier qui va devoir être constitué, un dossier de candidature, à travers ce site et un espace privé qui sera créé par abonnement. Un dossier qui va donner lieu en quelque sorte à un scoring. Et si scoring fait que on a un niveau d'équipement, d'action, d'implication de la commune qui permet de viser le label, à l'issue de cette candidature, un bénévole qu'on appelle bénévole rapporteur, qui a été formé spécifiquement pour ce faire, va prendre la tâche de la commune, va venir échanger avec les élus, les techniciens de la commune, visiter la commune, et va effectuer donc un rapport qui sera donc rendu auprès du jury au niveau national. Et puis, alors, évidemment, 2020 a fait un peu exception à la règle, mais généralement, le jury se prononce donc aux alentours du mois d'octobre, et le palmarès est promulgué chaque année au moment de l'Assemblée générale des maires de France à Paris, donc devant l'ensemble des élus de tout le territoire. Le palmarès est promulgué, le panneau est remis de manière officielle, et puis après on organise localement une manifestation autour de la pose officielle sur la commune de ce panneau label. Donc voilà, c'est une candidature qui se fait sur l'année et qui donc sur la fin de l'année arrive à délivrer le palmarès, et puis on installe donc tout de suite derrière. C'est un label qui est octroyé pour 3 ans, qui, comme tous les labels, permet aussi de pouvoir augmenter si on continue à avancer. Et c'est surtout ce qui est intéressant aussi, c'est un label qui est à la fois possible pour les grosses villes, mais aussi pour les toutes petites. C'est pour ça qu'on a une double appellation, ville et village prudent. Pour vous dire, pendant longtemps, en Haute-Vienne, la seule commune labellisée, c'était la commune de La Croisille-sur-Briance. Donc c'est une petite commune au sud du département avec moins de 1000 habitants. Donc on se côtoie dans ce label des villes donc comme la commune de La Croisille-sur-Briance, mais aussi donc depuis cette année en Haute-Vienne, des villes comme Limoges ou Saint-Thierry-la-Perche. Et puis on a aussi donc au tableau, on va dire, des villes comme Strasbourg, comme Toulouse, des très grandes villes qui sont aussi positionnées. Donc on a une communauté riche et variée de communes qui sont sur positionnées sur ce label, avec l'objectif de continuer à le développer, parce que c'est mettre en avant l'implication des collectivités, à la fois financière et puis au-delà en termes de volonté de sécuriser leur espace public. Et donc c'est aussi pour les élus la possibilité de justifier, mais de légitimiser tout l'effort qu'ils ont pu avoir et fait sur la commune.
Ça valorise leurs travaux.
Donc c'est un label qui est porté, je vous dis, depuis, il avait commencé très doucement en 2018, mais 2019 et 2020 ont été les deux pleines années de ce label. Donc on est sur quelque chose d'encore structurant, et j'espère donc le voir maintenant se développer aussi sur le département de la Charente.
Et vous avez beaucoup d'inscrits en ce moment?
Alors le nombre d'inscrits, enfin le nombre de villes labellisées total, je vous dirais une bêtise, mais on doit être aux alentours d'un peu plus de 300 communes. Hein.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Et donc, on peut encore s'inscrire actuellement.
Ah, mais la campagne pour 2021 va démarrer au mois de février. Et d'accord. si les maires m'appellent, je les recontacterai.
Ou alors, ils appellent RDC, tout simplement. RDC, voilà, ils nous appellent et puis on vous transmet le message et puis il n'y a pas de souci.
Absolument.
Et
moi, j'aurais presque tendance à te dire, surtout, fais-le pour les départements. Et mettez l'idée pour les départements, parce que les départements, c'est quand même 5000 km de voirie qui aménage des milliers et des millions d'euros investis tous les ans pour la sécurité. Et je pense qu'au même titre que les communes, eh bien, ça pourrait être quelque chose qui puisse se faire au niveau des départements, parce que tout ça, ça contribue à une émulsion qui fait qu'on augmente la sécurité, et c'est quelque chose d'essentiel.
Je ferai remonter l'idée, même si, de la même manière, aujourd'hui, on sait que dès le démarrage, des communautés d'agglomération ont souhaité aussi véhiculer, on va dire, le message, parce que souvent c'est elles aussi qui ont la main sur l'investissement pour tout ce qui concerne l'aménagement routier des communes aujourd'hui. Alors pour l'instant, on est resté sur une approche communale au niveau de l'association, alors sachant que ce qui peut être fait au niveau d'une agglomération, par exemple, donc il y a une candidature qui peut être poussée par l'agglomération aussi. Alors il y a une petite cotisation qui est prévue pour ce label, comme pour tous les labels. Quand une agglomération veut pousser la candidature, ça peut être une décision que les candidatures et les cotisations soient prises en charge au niveau de l'agglomération pour l'ensemble des communes de l'agglomération et qu'ainsi on ait des communes qui se poussent, qui mutuellement s'amènent. Alors de là à le faire au niveau départemental, pourquoi pas?
Ça serait cool.
Tout est possible. Allez, tout est possible. Le tout, c'est d'en parler, de faire passer l'information, parce que c'est, souvent de fois, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours l'information qui manque. Le petit truc qu'on n'a pas à capter. Ce que je ne savais pas, par contre, c'est que les policiers municipaux étaient aussi formés par la prévention routière.
Alors, ils ne le sont pas tous.
Pas tous, mais ça, c'est...
Effectivement, dans des communes qui souhaitent que leurs policiers municipaux interviennent dans le cadre scolaire ou dans le cadre périscolaire, d'ailleurs, hein, dans une logique donc d'intervenants en éducation routière, l'association Prévention Routière propose une formation qui est dispensée localement. Hein. On en avait une là qui était programmée en Corrèze début février, bon, qui va être décalée parce qu'on a une problématique de situation un peu délicate à traverser. Mais on peut former et ainsi on a des policiers municipaux qui vont après être avec des outils, parce qu'on les forme et on leur donne aussi les outils développés par l'association, des intervenants précieux au niveau des enfants. À titre d'exemple, pour une ville comme Limoges, par exemple, on a trois policiers municipaux qui sont formés sur cette formation d'intervenants en éducation routière et qui, chaque semaine, deux jours par semaine, sur la période du printemps à l'hiver, accueillent les enfants des écoles de Limoges sur la piste d'éducation routière, de la prévention routière au Champ de Vuillet. Voilà, donc ça peut être cette traduction-là. Donc c'est une formation dans laquelle on va faire côtoyer à la fois des policiers municipaux et puis des bénévoles aussi de l'association.
Oui, parce qu'il faut un encadrement.
Exactement.
Il y a besoin de...
Et ils sont formés par des intervenants spécialisés, professionnels, un psychologue spécialisé donc dans l'éducation routière et puis ou un moniteur formateur de moniteur auto-école. Donc là aussi formé spécifiquement sur nos outils.
Et on aurait eu une émission super riche, ma femme.
Superbe.
Oh là là, c'était franchement...
Ah oui, franchement, superbe.
On n'a pas grand-chose à rajouter. Hein. Je crois que vous avez fait le tour du sujet.
Remercier eh bien, nos intervenants, parce que ça va être l'heure de rendre l'antenne.
Oui, déjà.
Déjà.
Déjà, on va vous remercier, messieurs, d'être passés dans nos studios.
C'était avec plaisir.
Nous, on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra. J'espère que vous repasserez un jour dans nos studios. Quant à M. Joby, on va se donner rendez-vous à peu près dans un mois.
C'est ça.
Avec un nouvel intervenant ou une intervenante, on ne sait pas, on verra.
C'est ça, un intervenant ou une nouvelle intervenante.
Voilà,
je pense qu'on a vu la prévention routière. Le mois dernier, c'était un club UFOLEP.
Oui, voilà, les cyclistes.
Qui faisait partie des actions qu'ils menaient en matière de sécurité routière. Et la prochaine fois, je pense qu'on pourrait parler, on va solliciter la Fédération française de cyclisme avec ses animateurs qui interviennent aussi à l'intérieur des écoles, mais qui travaillent aussi sur des cheminements doux sur l'ensemble du département. C'est une autre façon de travailler et qui est complémentaire. Et vous savez, dans la commission que nous sommes réunis, auquel nous siégeons au niveau du département pour apporter une plus-value à la sécurité et à nos idées, tous ensemble, on intervient tous à ce titre, on crée des choses au niveau départemental pour le réaliser, et on s'est rendu compte, à travers ces commissions, que ce soit la prévention routière, que ce soit la sécurité routière, les services de l'État, mais aussi les fédérations, que ce soit Fédération française de cyclistes, UFOLEP, AFCOL, etc., eh bien, toutes ces fédérations-là et tous ces acteurs-là étaient complémentaires.
Bien sûr.
Où on croyait qu'ils étaient ils croyaient même eux qu'ils étaient sur des segmentations qui étaient équivalentes, mais ils ne font pas la même chose. Là, on vient d'entendre l'information qui est donnée. La Fédération française de cyclisme, elle va plutôt intervenir pour apprendre à faire du vélo. Parce que c'est aussi quelque chose de très important.
Bien sûr.
Savoir faire du vélo. Utiliser l'information, savoir s'arrêter, savoir... mais aussi faire des gestes qui vont permettre de pouvoir bien, super bien maîtriser sa machine. Et ça, c'est très complémentaire. Et donc, si si j'arrive à avoir un intervenant, ben c'est ce que je vous propose qu'on voie le mois prochain.
Ça sera avec plaisir. Il n'y a pas de souci, on vous fait entièrement confiance. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu, hein, il n'y a pas de souci, parce qu'on passe, on fait des émissions qui sont très riches. Alors, nos auditeurs comme nos auditrices sont un petit peu frileux pour appeler, mais c'est après Jean-Marc, lui, qui,
nous
a,
avons
les,
des retours dans la
qui semaine. A qui a des retours dans la semaine, donc on sait que, de toute façon, il n'y a pas de souci, nous
sommes écoutés. Parce que cette émission, à partir de lundi, sera donc remise en podcast sur le site internet de la radio, donc les gens peuvent la télécharger, la réécouter, voilà, tout simplement.
Voilà, comme vous, messieurs, d'ailleurs, vous pouvez la réécouter si ça vous dit.
Non, mais Laurent, avant, voilà.
On va vous souhaiter une bonne fin de journée.
Merci d'être venu.
Eh bien, et puis, eh bien, on se dit, nous, à très bientôt.
Au mois prochain.
Voilà. Et puis, ben, vous, on vous souhaite
au plaisir.
Bon courage.
Merci
et puis,
bien.
Ben, continuez sur la lancée, hein, parce que franchement, c'est
vous savez, notre objectif initial de zéro tué sur les routes n'est pas encore atteint, donc a priori, on a encore...
Oui, il y a encore du travail, sur la planche, parce que malheureusement, ça sera... Enfin, il ne faut pas être pessimiste, hein, mais pour, je pense que...
L'objectif est d'y tendre.
Oui, voilà, faut y croire. Allez, exactement. On va dire ça comme ça.
Et ça
faut
s'améliore d'année en année.
Absolument.
Tout est fait aussi pour que ça s'améliore.
Ouais,
hein, que ce,
oui.
Tout est fait à tout niveau d'ailleurs. Tout est fait pour que ça s'améliore. Ça y va progressivement, mais ça y va. Voilà. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir. À très bientôt, au revoir. Merci Françoise d'être venue ce matin encore une fois de plus.
Et puis moi je donne rendez-vous à mes auditeurs et bien lundi prochain à partir de 10h15 pour l'émission Matin Plaisir.
Et bien on se retrouvera bien sûr.
Avec voilà les recettes. Alors n'attendez pas la recette d'hier parce que j'ai un petit souci d'ordinateur, tout simplement. Bon. Donc vous aurez tout à la fois la semaine prochaine.
Si tu veux me l'envoyer, je me ferai plaisir de la transmettre si tu veux.
C'est un gâteau, Jean-Marc. Alors, je ne suis pas sûre que...
Bon, hein, d'accord.
Allez, bon courage à tous
merci,
et à très
Françoise.
Bientôt.
Au revoir,
merci
Françoise,
de votre fidélité. Au revoir.
Et nous allons repartir en musique, bien sûr, avec M. Eddie Mitchell sur la route de Memphis. Générique de fin, juste après.